Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Valérie Plante, la mairesse qui s'est présentée là, dans l'est de Montréal, rue Villeray, là, pas loin de la 20e avenue, avec le directeur du SPVM, Sylvain Caron, pour réagir au meurtre de l'adolescente de 16 ans qui a été tué par arme à feu dimanche soir dans le quartier Saint-Michel. Son nom était Thomas Trudel. La mairesse est au bout du fil. Madame Plante, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Pourquoi c'est important pour vous d'être là?
Pour montrer de la solidarité, parce que là où ça s'est passé, là, c'est un secteur qui est très habité. Trois écoles tout autour là, de l'endroit où a été sauvagement tué le jeune Thomas Trudel. Donc, c'était important pour moi d'être là. J'ai rencontré des passants, des citoyens, des jeunes aussi, qui ont connu de près ou de loin le petit ou encore sa famille. Donc, montrer de la solidarité.
Pensez-vous, il a été tué par arme à feu, on ne lui connaissait pas de mauvaises relations, l'enquête policière est en cours, espérons qu'on va retrouver la personne qui a commis ce meurtre-là, mais écoutez, c'est pas la première fois là depuis les derniers mois, la dernière année et quelques, qu'il y a des incidents inquiétants d'armes à feu. Il semble qu'il y a de plus en plus d'armes à feu. Pensez-vous que le dentifrice est sorti du tube? Pensez-vous qu'on va pouvoir revenir à une époque où il n'y aura pas autant de guns dans les rues?
C'est une question très intéressante. Puis honnêtement, j'ai la misère à vous répondre parce que traditionnellement, les guns, là, les armes à feu, on savait par où elles rentraient, comment ça circulait. Mmh. Mais il y a de plus en plus d'armes fantômes. Hein, donc, c'est vraiment des qu'on appelle ça des imprimantes 3D qui peuvent faire des armes à feu, là, des fusils. Et puis des pistolets, pardon. Puis aussi maintenant, on peut acheter des armes à feu puis de se les faire livrer en pièces détachées, puis ça passe la frontière américaine, là. C'est là où on est rendu. Donc, c'est clair que le marché des armes à feu, c'est étendu, c'est développé. Et c'est là où, pour moi, bien sûr, il y a du travail à faire sur le terrain, comme avec le SPVM, à retirer les armes à feu, absolument. Mais devant ce changement, cette facilité à obtenir des armes, c'est là où, pour moi, il est tout à fait inacceptable, incompréhensible qu'un gouvernement fédéral, par exemple, ne prenne pas cet enjeu-là plus au sérieux puis se dise, ben là, pour la protection de tout le monde, il faut qu'on agisse.
Regardez, tu sais, comment je vous dirais ça, Mme Plante? Moi aussi, je veux une solution. T'sais. J'ai un fils de 16 ans, là, de l'âge de Thomas Trudel. Ça vient tous nous chercher, comme quand Myriam Bendaoui, au mois de février,
absolument,
s'est fait tirer
c'est
aussi.
C'est le troisième adolescent. Là.
Écoutez, puis tu sais, ma job, c'est de poser des questions aux politiciens, de dire qu'est-ce que vous faites?
Qu'est-ce que vous faites, vous?
Mais pensez-vous sincèrement que même si le gouvernement fédéral triple les moyens, verrouille la frontière, écoutez, c'est la plus grande frontière non protégée du monde qu'on a avec les États-Unis, un pays où il y a 300 millions d'armes en circulation. Pensez-vous que ça va changer quelque chose quand même? C'est pour ça que je reviens à ma première question.
Oui, non, je
comprends. Ça se peut-tu que le dentifrice est sorti du tube?
Mais moi, je pourrais pas admettre, mettons, il y a rien à faire, puis maintenant, c'est de même, coudon, faut faire avec. C'est hors de question. Moi, je refuse ça. C'est évident aussi qu'une loi viendrait pas tout modifier. Mais quand on pense, par exemple, aux peines qui sont associées à la possession d'armes illégales, si on avait un meilleur contrôle, au moins des frontières, c'est vrai que la frontière est longue, mais il y a quand même des postes qu'on pourrait mieux contrôler. Il y a un travail qui se fait aussi dans les réserves autochtones. D'ailleurs, avec Centaure, le gouvernement du Québec est beaucoup plus impliqué, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, j'ai envie de vous dire que chaque palier a ses responsabilités. Fait que pour moi, c'est pas juste de dire « Ah, c'est le fédéral, puis bon, coudon. » Mais il en demeure pas moins que, comme société, on doit aussi se demander qu'est-ce qu'on veut, là, dans quelle société on vit.
OK, revenons sur Montréal. Vous étiez avec le chef de police Caron tantôt, là, puis je sais bien que vous pouvez pas nous, je sais bien que vous êtes pas là pour commenter l'enquête dans le meurtre de Thomas Trudel. Moi, il y a des policiers qui me disent, écoutez, il y a des interpellations qu'on ne fait plus, qui pouvaient potentiellement mener à des saisies d'armes avant, parce qu'on veut pas être accusé de profilage racial. Est-ce que vous entendez ça aussi?
Honnêtement, c'est pas monnaie courante, vraiment là. Puis la preuve, c'est le nombre d'armes, par exemple, qui ont été retirées là des rues, qui a été retirées du territoire de Montréal depuis le début de l'année. On est rendu à 575. Donc les interpellations se font. Est-ce que d'avoir une conscience de que les policiers policières aient maintenant des outils pour les aider à faire des interpellations dans toutes les règles de l'art? Moi, je trouve que c'est correct parce qu'en fait, c'est ce qui a été mis en place, une politique d'interpellation. C'est la première fois qu'on a ça au Québec. Et ça, j'en discutais avec M. Caron, ça fonctionne. Donc, je pense qu'il faut avoir une conscience dans le monde dans lequel on évolue puis de pouvoir avoir bien au courant de ses biais parce que c'est naturel, mais en même temps, de faire son travail. Donc, moi, quand je parle avec les policiers, ce qu'ils me disent, c'est moi, ce que je cherche, c'est quelqu'un qui a possiblement une arme. Je me pose pas la question... qui est cette personne-là, quelle langue elle parle ou la couleur de sa peau, là.
OK, vous avez mentionné le fédéral puis les peines minimales. Le gouvernement Harper a déjà adopté, là, avec l'appui d'autres partis, une loi sur sur les peines minimales, OK? Et ça a été torpillé par la Cour suprême. Pensez-vous qu'il faudrait réessayer d'avoir un article dans le Code criminel là-dessus, peut-être mieux écrit, mieux balisé?
Ben écoutez, c'est effectivement là, c'est étonnant pour moi de dire que je suis en faveur de cette idée-là qui avait été mise de l'avant par les conservateurs de l'époque. Mais voilà, on est dans un contexte qui a évolué et oui, je suis en faveur. Est-ce qu'il faut, comme vous venez de le dire, de le réadapter, de vérifier certaines modalités, bref, de le mettre à la mode 2021? Absolument. Moi, je pense que c'est une bonne chose.
Trouvez-vous que le premier ministre Trudeau, qui est un député de Montréal, parle suffisamment de cet enjeu-là?
La réponse, c'est non. Je pense que ça le préoccupe, comme nous tous et toutes, c'est évident. Mais pour moi, le fait qu'il y ait une augmentation de la violence à Montréal, bien sûr, on est loin, et heureusement, on est loin de ce qui se passe à Toronto, évidemment. Mais c'est pas une raison pour moi pour que... J'aimerais que cet enjeu-là soit beaucoup, beaucoup, beaucoup plus présent. Et on se le cachera pas, c'est un enjeu qui est somme toute inconfortable quand on a un pays à diriger, parce que les positions peuvent être très différentes. Mais il en demeure pas moins qu'au Québec, c'est Montréal qui est touché. Aujourd'hui, il y a un garçon de 16 ans, hier, qui a été tué froidement. Et pour moi, ça, c'est excessivement inquiétant. Je discute avec l'ensemble des députés fédéraux et puis on sent une volonté d'agir. Mais ma question, c'est quand et comment et à quelle vitesse?
Merci, Mme Plante.
Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.
Bonne soirée. C'était Valérie Plante, la mairesse de Montréal.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Il y a cette saga hier qui a éclaté sur les médias sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, il y a une offre d'emploi du restaurant, du fameux restaurant au pied de cochon qui a enflammé les réseaux sociaux. L'offre d'emploi, c'était pour des cuisiniers à 13,50 $. Bien, on sait, c'est assez proche du salaire minimum, mais en ces temps de pénurie de main-d'œuvre, c'est très, très bas. Moi, j'ai vu passer ça sur les réseaux hier. J'ai pris mon gaz égal. Je me disais, de toute façon, à 13,50 $ dans le marché actuel, même en restauration où il y a une grave pénurie d'employés, pas sûr que si c'est bel et bien le salaire, on va pouvoir recruter des cuisiniers au pied de cochon. Et là, Martin Picard s'est expliqué aujourd'hui. L'histoire est plus nuancée que ce qui circulait sur les réseaux sociaux. On va écouter un extrait de l'entrevue qu'il a accordé à Paul Arcand.
On a un système avec une convention qui a été faite avec les employés et la répartition des pourboires se fait équitablement entre la salle à manger et la cuisine. Le cuisinier, en moyenne, tu sais, quelqu'un qui fait 40 heures là, si, avec la répartition là, des pourboires, tout ça, va se retrouver autour là, de 18 $ de l'heure.
Il y avait aussi un enjeu là, de technicalité, si on veut, dans l'offre d'emploi. Si j'ai bien compris, là, ça fait partie d'une sorte de protocole France-Québec. Il faut mettre un salaire fixe pour attirer des gens. On peut pas dire c'est entre tel et tel salaire. On peut pas dire que le pourboire n'est pas inclus, qu'il y a une convention de partage de pourboire. Bref, ce que Picard a dit, c'est que dans le réel, les cuisiniers du Pied-de-Cochon font jamais 13,50 $. Reste que pour beaucoup de restaurateurs ces jours-ci, la question de la rémunération du personnel, c'est un casse-tête. Les denrées sont en pleine augmentation de prix. Vous le savez, il y a de l'inflation. Bien, ça touche aussi les restaurants. Ajoutez à ça la pénurie de main-d'œuvre. Comment on attire les gens? Comment on les garde? Bien, il y a Antonin Mousseau-Rivard, chef propriétaire du restaurant Le Mousseau, qui a mis beaucoup de jus de ciboulot là-dessus sur la rémunération. Il est au bout du fil. Antonin, salut!
Salut Patrick.
D'abord, je suis curieux, comment tu as réagi quand tu as vu passer de la saga du 13,50 $ pour les cuisiniers du Pied-de-Cochon avant l'explication de Martin Picard?
Ben écoute, je pense que comme tout le monde, ça a attiré mon attention. Maintenant, je me disais qu'il devait y avoir des nuances derrière ça parce que, bon, on s'entend que ce salaire-là, c'est vraiment pas un salaire bon décent pour les cuisiniers. Fait que si on analyse, avant l'analyse, puis avant de savoir ce qu'il y avait derrière tout ça, ben comme tout le monde, j'ai été quand même intrigué par tout ça. Mais j'attendais les explications, puis je m'attendais pas mal à ce qui a été dit ce matin. Donc j'étais content d'entendre Martin là vraiment expliquer que bon oui il y a partage des pourboires et tout ça. Ça reste que c'est un salaire peu élevé pour certains, mais moi je veux pas mêler des affaires de Martin non plus. Mais je veux dire s'il y a un partage des pourboires et tout ça, puis on sait pas nécessairement c'est quoi le poste non plus. Est-ce que le poste demande quelqu'un qui a des études en haute gastronomie puis qui a vraiment, ou est-ce que c'est quelqu'un qui va couper des patates? T'sais, je veux dire, il peut y avoir des différences dans les postes selon bon le pedigree des employés aussi là. Donc je savais qu'il allait avoir de la nuance à faire là-dedans, et puis je m'attendais un peu à ce qui a été dit là ce matin.
Antonin, j'ai vu passer un texte de ta part où t'expliques comment t'as repensé dans un de tes restos là la façon d'organiser le travail pour que les gens aient une vie qui soit mieux payée. Explique aux gens à quel point il y a de la réflexion qui va dans la façon de compenser, de payer le personnel.
Ben c'est simple, c'est que je veux dire, on est dans un milieu où le personnel depuis des années va et vient. On voyait la pénurie de main d'œuvre arriver, on l'a vu. Ça a commencé il y a quelques années, donc on l'a vu. Puis moi, je me suis vraiment, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, puis comment on peut faire un modèle d'affaires qui va être centré sur le fait que de garder ses employés, de bien les payer, va être plus payant en bout de ligne pour moi. Parce que on n'est pas obligé de toujours reformer des personnes, on n'est pas obligé de jouer vraiment un peu à la garderie là, avec il y a beaucoup de jeunes cuisiniers qui viennent, qui travaillent, qui veulent juste mettre des noms sur leur CV, ils restent 3 mois puis ils s'en vont ailleurs, puis ils ont beaucoup d'ambition et tout ça. Donc moi je voulais du monde qui était capable de rester longtemps, puis je voulais leur donner tout ce que je pouvais pour qu'ils aient une vie et qu'ils aient envie de continuer dans ce milieu-là, parce que j'ai l'impression qu'on se dirige un peu dans un mur, puis qu'on ne voit pas venir, mais il va avoir une crise majeure là, dans l'industrie prochainement à avoir des gens qualifiés qui vont vouloir rester en cuisine. Il n'y a pas d'intérêt de rester dans un milieu si les conditions sont pas bonnes et que le salaire est pas bon, puis que d'avoir une vie on the side, d'avoir des projets, de vouloir faire un enfant, de n'importe quoi, devient difficile, tu sais. Donc, moi, je me suis assis, j'ai vu de la réflexion, j'ai dit comment on peut faire pour vraiment augmenter les conditions, augmenter les salaires. Mais ça venait, bien sûr, avec une hausse de mes prix qui était... Quand la lettre a été écrite, c'est sûr que le restaurant n'était pas encore ouvert, donc j'étais très stressé à ce que les gens allaient dire, mais depuis un mois, on a réouvert et les gens comprennent à la fin, quand vient le moment de payer, ils voient bien qu'ils ont payé pour quelque chose, une expérience qui contient qu'il y a beaucoup de travail derrière ce qu'ils payent, et ils le voient, et on a que des bons commentaires. Donc je pense que c'est important pour moi de faire comprendre aux gens qu'une bonne qualité de nourriture et une bonne qualité de travail pour les gens qui travaillent derrière, ça vient avec une augmentation de prix. Autant que des gens aiment acheter du café équitable, payer plus cher pour être sûr que les gens qui l'ont cueilli ont été bien traités, mais c'est la même chose dans un restaurant. Si on veut de la qualité, il faut payer le prix.
Écoute, ton créneau, Antonin, là, avec le mousseau, c'est ce qu'on appelle les nappes blanches. Ce sont des restaurants qui sont dispendieux, beaucoup plus dispendieux que la moyenne. Là, c'est une expérience gastronomique que vous vendez. Est-ce que la marge de profit, parce que l'assiette coûte plus cher, elle est plus grande, la marge?
Non, elle est vraiment plus petite. Il faut comprendre que les marges de profit, plus quelque chose coûte pas cher, en fait, plus il peut rapporter. Si vous voyez, prenez un exemple, OK? Un restaurant qui va vendre des pâtes ou de la pizza, on trouve ça acceptable d'acheter une assiette de pâtes à 30 $, admettons, dans un restaurant italien. Des pâtes sèches, catelli, qui coûtent à peu près 10 cents la portion, avec un peu de sauce, ben, la marge, vous pouvez comprendre que la marge sur un plat comme ça est beaucoup plus grande que moi qui veux acheter, admettons, du bœuf du Québec, des produits du Québec, des champignons cueillis par des cueilleurs et tout ça, et que j'ai déjà un gros prix à payer. Je peux pas, les marges ne peuvent pas être les mêmes. Habituellement, la règle est de vendre trois fois le prix de quelque chose qu'on paye. C'est très dur de faire ça dans les restaurants gastronomiques parce que nous, on veut encourager la qualité, mais en même temps, il faut que les clients soient prêts et il faut que les clients comprennent que le prix qui vient avec, ça vient vraiment avec la qualité. Un autre exemple, c'est les gens, la clientèle voit pas nécessairement, comprend pas nécessairement ce qu'il y a dans son assiette. Alors, c'est sûr que si on prend des places un peu cheap qui vendent, mettons, une bavette frite le midi à 20 $, mais que la bavette a été achetée d'une grosse compagnie, ça vient des États-Unis, c'est du bœuf pré-salé, pré-assaisonné, qui vient sous vide, déjà portionné. Les gens vont trouver qu'elle est fondante, cette bavette-là est donc bien bonne. Ben oui, mais il y a plein d'attendrissants dedans et elle ne coûte pas cher. C'est pour ça qu'on vous la vend pas cher. Si après ça, moi, un restaurateur, pas nécessairement une nappe blanche, je veux vendre de la bavette de bœuf du Québec, ben, le prix qu'il va payer comparé à celle des États-Unis déjà pactée, c'est énorme la différence. Alors, qui va vouloir acheter après une bavette à 50 $? Ils veulent pas comprendre ce qu'il y a derrière, ils veulent payer moins cher. Donc, c'est vraiment important d'expliquer aux gens vraiment que il y a toute une chaîne derrière ce qu'ils payent. Derrière leur assiette, il y a toute une chaîne de gens qui travaillent, de gens qui sont passionnés puis qui mettent beaucoup de jus de coude là-dedans. Puis ben, ça a un prix, tout ça. Ça vraiment, il faut que le restaurateur a une part de ça, mais la clientèle aussi doit changer et comprendre que la qualité a un prix et que des fois, c'est peut-être mieux de sortir moins, mais de sortir mieux aussi.
Bien dit. Merci beaucoup, Antonin. Bonne chance avec le mousseau. Merci. Salut.
Merci, bye-bye.
C'était Antonin Mousseau-Rivard, qui est chef propriétaire du restaurant Le Mousseau. On va parler de musique de Noël. C'était promis, Léa Streliski ne trippe pas sur la musique de Noël en novembre. Et elle est au bout du fil. Salut, Léa.
Salut.
Donc,
ça commence bien.
Tu réponds, tu fais un salut comme Jérémy Filosa.
Ben oui.
Mais c'est parce que secrètement, je veux
sa
job, en fait.
Ben oui, une fille de sport.
T'aimerais ça, hein? Mais est-ce que tu connais d'autres sports que le hockey?
Ben, je sais que nous nous apprêtons à aller nous battre contre le Mexique au soccer. C'était le bon terme. On va se battre au soccer et qu'il neige à Edmonton. Si on perd, on va avoir honte.
Il fait moins 16, aussi avec le facteur vent.
Oui, c'est très, très longtemps l'hiver là-bas. Les Mexicains, je leur souhaite bonne chance.
Bon, OK. Là, je veux qu'on parle d'un sujet très important dans la société et c'est, disons, la temporalité de la musique de Noël. Toi, t'es de l'école qu'il faut pas faire jouer de musique de Noël au mois de novembre. J'aimerais ça que t'expliques aux gens qui nous écoutent pourquoi t'as cette position-là.
Mais moi, c'est même pas juste la musique, là. Moi, je ne veux rien savoir de Noël avant le 1er décembre, OK? Moi, je sais pas ce qui se passe dans notre monde en ce moment, là. Mais moi, avant, je me souviens d'un temps où on vivait l'Halloween, puis après, le lendemain, il se passait rien, là. Là, maintenant, il y a comme une espèce de fébrilité, une course à savoir qui sera la première personne qui sort son sapin de Noël. Puis là, vous allez me dire, c'est pas si grave que ça. Mais oui, c'est grave, Patrick. Je t'explique pourquoi c'est grave. Parce que la première personne qui, le 2 novembre, sort ses déclarations de Noël, qu'est-ce que tu penses que ça crée? Ben, ça crée une norme, un standard. Fait que là, tout le reste de la société qui n'a pas envie de sortir ses boules de Noël un 3 novembre, ben commence à se dire, coudonc, je suis en retard.
C'est le sapin de Noël gonflable.
Ben non, mais c'est parce que ça crée un stress. Après, on est rendu le 3 novembre, tu penses que t'es supposé être en train de faire une tourtière. Mais c'est vrai.
Oui, mais c'est peut-être toi. C'est peut-être toi le problème, parce que c'est si beau Noël et c'est si beau tout ça. Pourquoi pas l'en vivre durant 2 mois plutôt que seulement un?
Non, parce que je le sais que c'est pas ça que ça crée chez les gens. Oui, il y a quelques personnes qui sont contentes puis bravo pour vous.
Catherine.
Mais est-ce que ça crée? Je m'excuse, Catherine.
Non, mais tu sais, moi, je vous prépare à la musique de Noël. Vous l'écoutez quand vous la voulez, là, mais...
Mais non, mais la musique, à la rigueur, je veux dire, c'est bon. Mais c'est parce que dans mon école, ce que ça crée l'effet papier de toilette, OK? L'effet papier de toilette, on se souvient, en pandémie, ce qui s'est passé, tout le monde s'est garoché sur le papier de toilette. Il y a plein de gens qui voulaient pas aller acheter du papier de toilette.
Mm-hmm.
Ils voulaient pas faire des réserves. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a vu que les gens se mettaient à acheter plein de papier de toilette, puis à un moment donné, ça a créé une sorte d'effet de foule. Ou est-ce que là, on s'est dit, coudonc, je le sais, je manquerai pas de papier de toilette, mais si tout le monde achète du papier de toilette, ben peut-être que je vais en manquer. Fait que là, tout le monde était pogné là-dedans.
Mais attends une seconde, Léa. Ouais. OK, on recule un peu là, au début de la conversation. Tu as dit, je me souviens d'une époque où, après l'Halloween, il se passait rien. Il n'y avait pas là, de rush vers... les décorations à la musique de Noël. C'est pas une vision un peu nostalgique, un peu comme nos grands-parents qui disaient que ils montaient une côte pour aller à l'école, puis ils montaient une côte pour revenir après la maison?
2000 dans neige.
Je suis beaucoup plus jeune que ça, premièrement. Et deuxièmement, c'est juste que je prêche pour qu'on laisse novembre être novembre. Je trouve que c'est très nous, ça, OK? Moi, il y a une fête entre l'Halloween... et Noël, ça s'appelle la dépression saisonnière.
Mm-hmm.
Et il faut qu'on respecte cette tradition, OK? La vie, c'est aussi ça, c'est des moments d'ol. C'est des moments que t'es pas supposé décorer. Et moi, j'en ai eu des états dépressifs dans ma vie, puis je le sais que ça sert à rien de leur mettre du rouge à lèvres, tu comprends? Ça ne rien. Donc, je veux juste qu'on laisse novembre être novembre.
Oui, mais... OK, Léa, on vient de vivre quand même une année et demie épouvantable. La pandémie, l'année dernière, Noël a été carrément scrappé. On n'a pas pu être avec nos familles. Moi, je pense que contrairement à toi, c'est correct de faire vivre des petits bonheurs pendant le mois de novembre. Si des gens peuvent se conforter avec la musique de Noël et faire leur sapin, puis que ça les rend heureux, qu'on les laisse vivre.
Mais là, Catherine, évidemment, là, je veux dire, quand est-ce que je dis des choses sérieuses et intelligentes? C'est vraiment rare, là. Je veux dire, sincèrement, tout ça part juste de mon propre trop-plein sur les médias sociaux.
Mais peut-être que tu as 3 enfants aussi, c'est peut-être ça qui t'aide pas, parce que c'est les cadeaux, puis le stress.
C'est ça, mais il y a d'autres parents. En fait, mon seul message, c'est, t'as quoi, vous, ça vous tente de vivre novembre comme c'est? Ça vous gosse que Noël s'installe en novembre, vous avez le droit.
Oui, écoute, parce que on a le droit, sauf que là, on va dans les commerces puis on entend de la musique de Noël, on ouvre le poste de radio, on entend Catherine Beauchamp qui en parle. C'est un peu inévitable de tomber dessus, là.
Oui, ben c'est ça. Moi, je maintiens qu'on ne suit pas le calendrier de Jésus, mais celui du Dolorama. Je veux dire, je pense que c'est plus ça, notre école, dans notre société maintenant. Mais écoute, moi, c'est pas l'ambiance dans laquelle je veux être. Je veux dire, puis là, il est difficile aussi, c'est que quand on tient ce discours-là, on passe nécessairement pour un Grinch. Tu sais, j'ai l'air d'un Grinch en ce moment. Mais je veux dire, moi, je l'aime, ma fête, mais je suis née le 7 février. Si tu m'arrives avec un gâteau le 3 juin, je suis pas dans la même ambiance.
OK, comment ça s'organise? À quelle date vous faites le sapin? Est-ce que tu ajoutes des calendriers de l'Avent à tes enfants ou il faut qu'ils se battent le chocolat aux 3 jours?
Ben, moi, je suis de l'école des pierres puis du charbon, ça les rend heureux, personne.
Tu leur donnes des oranges, c'est ça?
Faut dire que t'en as 3, là, hein?
Oui, c'est ça. Si vous voulez, quand vous avez parlé du salaire des gens en cuisine, on parlera du 25$ qu'on nous donne quand on fait des soirées d'humour. C'est un autre sujet. Mais je suis très Noël en plus. T'sais, moi, dès que le mois de décembre embarque, j'adore la neige. Normalement, mais j'ai de la joie de vivre.
Si tu étais première ministre, là, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce qu'il y aurait un projet de loi pour qu'on interdise les célébrations de Noël, la musique, les décorations avant le 1er décembre?
Bien sûr, quand je serai gouverneur général, ce sera mon premier plan. Après, demander aux gens de se choisir un nom de famille et de ne pas en avoir deux, ce sera mon deuxième règlement. Vous n'avez pas le droit de célébrer Noël et avant le 1er décembre.
Et après Noël, Léa, il y en a qui disent que c'est les rois, il y en a qui tirent ça jusqu'à Saint-Valentin. Toi, Noël, ça finit quand?
Ben moi, c'est là que je diffère de plein de gens. C'est que ça me dérange pas que tu gardes tes boules de Noël puis tes guirlandes de Noël jusqu'au mois de février parce que ça fait que je me sens organisée. Tu vois, quand je te vois sortir ton sapin, disons, fin mars, qui est tout sec, puis là, tu le sors au vidange, je suis comme, check moi comment je suis bien organisée. Je l'avais sorti après la galette des rois. Fait que ça me dérange pas.
Tu vois, moi, je suis de l'école là où je suis plus capable d'endurer le sapin après le jour de l'an.
Ben oui, mais c'est normal, Catherine, si tu le pars le 1er novembre.
Mon sapin n'est pas fait. Mais moi, je trouve que ça n'a plus lieu d'être. Puis ça m'énerve dans le salon.
Ben c'est ça, tu vois. C'est deux écoles. C'est deux écoles.
Léa, j'imagine que tu as partagé sur tes médias sociaux ton déplaisir devant toutes les célébrations de Noël, musique, décoration, etc. au mois de novembre. Est-ce que tu as eu une réaction?
Oui, ben ça a fait tout ce que ça fait sur Twitter d'habitude. C'est-à-dire que c'est correct, puis comme dans une maison, tout ce qui traîne se salit. Dans la vie, c'est ça aussi. Alors, à un moment donné, tu finis par manger des tomates. Mais il y a quand même environ 400 personnes qui étaient tout à fait d'accord avec moi. Mmh. Alors, si j'ai pu créer une petite soupape et que vous, ce qui vous relaxe, c'est de savoir que non, Noël s'en vient pas si bientôt que ça, que vous avez encore plein de temps pour faire vos affaires, eh bien, ça aura servi à ça.
Il y a des gens qui nous écrivent dans la messagerie pour dire « Ouais, Léa Streliski doit être le fun dans un party, lol. »
Eh oui, je le sais. Vous pensez que je suis un Grinch maintenant, mais tout ça, c'est la faute du monde qui fête Noël en novembre. C'est pas de ma faute.
Tes cadeaux sont-ils achetés?
Non. J'ai pas besoin. Je rappelle qu'on est plus qu'un mois avant Noël.
OK.
Tu vas aller aux Jean Coutu dans le quartier juste un petit peu
de
un petit peu avant 17h le 24 novembre?
Vous êtes plein de jugements. Je sais pas si je vais rappeler à cette émission. Vous êtes plein de jugements.
Il y a quelqu'un qui nous écrit Streliski for president, par contre.
C'est... Yes!
Mais c'est vraiment 50-50. Ouais. La messagerie déborde, c'est puis 50-50. C'est vraiment, il y a des gens qui disent que t'es une génie, puis il y a des gens qui veulent te lyncher.
Je sais. Hey. Mais encore une fois, si ça vous crée du bonheur dans votre cœur, bon. Je veux dire, mettez-les vos décorations de Noël juste pas chez nous.
Dernière question, Léa. Je sais que le hockey est très populaire dans ta maisonnée. T'as un fils. Oui. T'es venu nous visiter avec un de tes fils, Clarence. Écoute, c'est vraiment pas une belle saison. Est-ce que les enfants ont le caquéba?
Mais pas tant. J'ai quand même du fun. Vous voyez, vous pensez que je suis un Grinch de Noël?
Oui.
Mais moi, j'ai quand même du fun à regarder Canadien. Je suis contente qu'il y ait une game ce soir. Je vais la regarder. Je sais pas, l'ambiance reste là. Je sais pas. Peut-être que je suis une vraie fan, qu'est-ce que tu veux. Fait que c'est pas si pire que ça. On va la regarder.
On a une chanson à te faire écouter avant de te laisser.
D'accord.
You're a mean one, Mr. Grinch. You really are a heel.
Oui, t'es notre Grinch officiel de Noël, Léa. On va te reparler pour bitcher sur Noël.
Ça me fera plaisir de le faire avec tout mon cœur.
Puis moi, comme je suis Grinch du Canadien, ben regardez le petit numéro 13 qui joue pour les Bleus à soir. C'est un petit gars de chez nous, ça. Lafrenière. Il est pas pire. Bon.
Ah, laissez novembre être novembre. C'est des paroles de sagesse. Merci beaucoup, Léa.
À bientôt.
Bye.
Bye.
Ah, l'esprit des fêtes, hein? Il a neigé en plus aujourd'hui. Moi, je pense que ça va avec la neige.
Mais connaissez-vous l'ambiance. Le truc? Nous, à la campagne, on n'enlève jamais nos lumières de Noël. Comme ça, à l'année. Fait qu'il n'y a pas de chicane, on installe-tu nos lumières en novembre? Ben non, ils sont déjà là.
Puis t'es prêt pour le Noël du campeur en juillet.
Cette année, je vais mettre un arbre de Noël sur le balcon. Voilà, c'est décidé.
Ah, c'est fait?
Ouais, non, je vais le faire.
Je te prends au mot, hein? Je vous reviens là-dessus. Ça serait, c'est pas fait, cette histoire.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Vous le savez, là, dimanche soir, il y a un jeune de 16 ans qui a été tué à Montréal. Et là, ça suscite l'émoi. Il semble avoir été tué sans raison. L'enquête policière est en cours. La mairesse de Montréal et le chef de police de Montréal vont tenir un point de presse à 16h15. À 17h, on va avoir une entrevue sur ce sujet-là. OK. Il y a aussi une enquête de la coroner, là, Mme Kamel, qui se déroule présentement pour savoir qu'est-ce qui s'est passé dans les CHSLD pendant la première vague de la pandémie. Qu'est-ce qui a mené à cette hécatombe? On le sait, il y a des milliers d'aînés qui sont décédés. On avait protégé les hôpitaux, on les avait bétonnés, mais les CHSLD ont sans doute été négligés. Et là, il y a des personnages comme Dr Horacio Arruda, les sous-ministres adjoints à la santé, O'Paterny et Rose Bush, qui ont témoigné à l'enquête. Et on va parler de tout ça avec quelqu'un qui s'y connaît bien en matière de CHSLD. Il est gériatre à l'Institut de gériatrie de Montréal, Dr David Lucier. Salut, David.
Salut Patrick.
Donc, d'abord, je t'ai vu commenter sur Twitter, là, OK? Parce que la coroner Kamel a soulevé que toute la question de cette directive du ministère de la Santé qui insistait à traiter sur place les aînés en CHSLD, les malades, là, plutôt que les transférer à l'hôpital. Et toi, sur Twitter, tu as dit, écoutez, ça devrait toujours être la façon de faire, même hors pandémie. Est-ce que tu veux dire par là qu'il ne faut pas envoyer les aînés à l'hôpital quand ils sont en CHSLD?
Non, c'est pas qu'il faut pas les employer. Puis d'ailleurs, je le dis depuis le début, je le disais même au tout début, là, que c'était pas nouveau, que ça a toujours été la façon de faire. Puis la directive qui a été donnée, c'était de les traiter dans les CHSLD le plus possible. Puis ça dépend toujours du degré de maladie de la personne, puis du degré d'intensité de soins qu'elle désire. C'est-à-dire que le patient qui avait une COVID et qui veut pas être intubé, qui veut pas être réanimé, il y a beaucoup qui peut être fait dans les CHSLD. Il y a certains CHSLD qui peuvent mettre des intraveineuses, qui peuvent les hydrater. Il y a des patients qui voulaient seulement être confortables sans avoir aucun traitement actif. Donc, ces patients-là, encore là, dans des conditions normales, c'est tout à fait correct de les garder en CHSLD. Puis ça, c'est quelque chose qui est assez bien connu. Le problème qu'on a eu dans la pandémie, c'est qu'il y a plusieurs CHSLD qui se sont retrouvés sans médecin ou avec des médecins en télémédecine. Il y a des CHSLD qui se sont retrouvés avec des médecins qui étaient pas des médecins de CHSLD habituels, donc qui, eux, avaient le réflexe de transférer tout le monde à l'urgence. Puis, c'était pas des bons soins, même pour les personnes, parce que ils se retrouvaient à mourir à l'urgence plutôt que de mourir au CHSLD avec les gens qui connaissent.
Est-ce qu'on a, quand on pense à ces transferts dans les hôpitaux, est-ce qu'on a une vision, nous, les gens, là, disons, jeunes, relativement jeunes, bien portants, une vision jeunesse centriste de ce qui peut se passer en CHSLD?
Bien, je pense qu'on a une vision de comme quoi toute personne gravement malade doit aller à l'hôpital, alors que c'est pas nécessairement le cas. Le CHSLD, ça reste un niveau de soins, puis il y a des très, très bons soins qui peuvent être donnés dans les CHSLD. Donc, je pense qu'on s'imagine des personnes comme nous qui, si on est malade de façon sévère, par la COVID, on va aller à l'hôpital, mais pour quelqu'un qui était en CHSLD, c'est pas nécessairement approprié d'y aller. Puis ça, malheureusement, je crois que c'est pas bien compris dans la population. C'est très bien compris par tous ceux qui travaillent dans le milieu, qui travaillent dans les CHSLD, qui connaissent bien ces milieux-là, mais c'est pas compris dans la population parce qu'ils sont pas habitués à des questions comme ça. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que ce soit pas compris non plus par la coroner. Donc, que ça nous emmène un peu des conclusions qui nous aideraient pas dans le futur du tout si on avait une autre situation semblable.
T'as cette perception-là que la coroner Kamel là-dessus, là, sur le principe de garder en CHSLD des malades quasiment mourants ou de les envoyer à l'hôpital, elle ne comprend pas?
Ben évidemment, je le sais pas parce que j'écoute pas les audiences là. C'est
ce que t'en as lu dans les médias.
Dans la journée, mais ce que j'en ai lu dans les médias, j'ai peur que ce soit un peu sa perception. Puis l'autre chose qui m'inquiète de ce que je vois, c'est qu'elle revient souvent sur les faits, sur le fait que les proches aidants aient été exclus. des CHSLD. Il y a beaucoup, beaucoup de questions là-dessus à tous les témoins qu'elle rencontre. Et ça aussi, c'est quelque chose qui, a posteriori, on se dit que c'était épouvantable de faire ça, mais quand on était dans l'urgence de la situation, c'était quelque chose qui était vraiment inévitable, que c'était la seule option possible à ce moment-là. Donc, ça aussi, je crains qu'il y ait une conclusion qui ne soit pas appropriée à la situation qu'on vivait à l'époque, qui était une situation très grave.
La coroner Kamel, là, dans ses questions, je veux pas y prêter des intentions, mais elle pose la question, disons, du manque de réaction collective qu'on a eu à cette hécatombe dans la première vague dans les CHSLD. Elle dit, écoutez, si ça avait été des enfants, on aurait tous hurlé. Qu'est-ce que tu penses de cette approche-là, de cette attitude-là?
C'est difficile à dire. Moi, je suis pas du tout de l'école qui dit qu'on se fout des personnes âgées puis qu'on s'en occupe pas bien. Je crois que si ça avait été des enfants, premièrement, ils auraient pas été dans la même situation parce qu'ils auraient pas été aussi fragiles, aussi vulnérables. Est-ce qu'on aurait mieux fait? Peut-être. Est-ce qu'on aurait mieux préparé les CHSLD si ça avait été des enfants? Peut-être. Mais je crois que c'est un faux débat de le voir. C'est la vraie question, c'est pourquoi les CHSLD n'ont pas été préparés, pourquoi on a préparé les hôpitaux, mais qu'on a autant négligé les CHSLD. Je pense pas que ce soit de l'âgisme, je pense que c'est plus une question d'organisation ou de gouvernance à ce moment-là.
Merci David, toujours un plaisir.
Au plaisir.
Salut, David Lucier, gériatre à l'Institut de gériatrie de Montréal.
Patrick Lagacé, en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.